kelen tontot.
Le vendredi, le métal fait son show sur Bac FM. Salut à tous, bienvenue dans l'émission Check Me Load, l'émission qui, chaque semaine, eh bien, vous présente l'actu métal, les dernières sorties. Les deux dernières semaines, on s'était intéressé plus particulièrement à deux festivals. Il y a eu le Download il y a 15 jours et puis le week-end dernier, c'était bien sûr le Hellfest. Et ça tombe bien parce qu'il y avait très très peu de sorties. Aujourd'hui, on en a quelques-unes et puis on en a surtout qui se profilent pour le 6 juillet qui va être assez sympathique comme date à retenir. Donc, comme la semaine prochaine, j'ai envie de vous proposer les sorties plutôt de la du mi jusqu'à fin juillet. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux sorties du jour, plus aux sorties du 6 juillet, ainsi qu'un petit retour en arrière avec notamment un double hommage. Le monde des batteurs est en deuil hein, ces derniers jours avec la disparition de deux grands noms de la batterie, un français et puis un américain. Le premier, c'est Stéphane Guégan qui est décédé cette semaine, qui a été le batteur notamment du groupe Aggressor. Et puis le second, c'est Vinnie Paul, hein, le batteur ex-batteur de Pantera, désormais batteur de L.I.A., qui est décédé pendant le Hellfest, qui lui a d'ailleurs rendu largement hommage. Nous aussi, on leur rendra hommage tout à l'heure, un peu sur la fin de l'émission, avec des morceaux qui sont plutôt d'actualité, puisque pour Aggressor, on s'intéressera à une réédition d'un album, et puis pour Pantera, à un live qui est tout frais, puisqu'il date de vendredi dernier. Sinon, quoi d'autre? Puis à la fin de l'émission, la rubrique Sortez Cover, ce sera aussi de la nouveauté aujourd'hui avec un album à paraître la semaine prochaine. Mais tout de suite, je vous propose de lancer les hostilités avec les deux sorties du jour. Une que j'ai adorée, l'autre un petit peu moins, mais on va en parler quand même. La première, c'est la sortie du nouvel album de The Night Flight Orchestra, un album qui s'intitule Sometimes the World Ain't Enough. Alors, bien sûr, je vais vous présenter The Night Flight Orchestra, peut-être les connaissez-vous déjà. Si vous suivez l'émission, j'en avais parlé il y a quasi un an jour pour jour, puisque il y a un an sortait déjà un album de ce groupe. Alors ils nous viennent de Suède, de Helsingborg, hein, plus précisément. C'est un groupe qui existe depuis 2007 et qui a été créé par deux membres d'un groupe de death melodic bien connu. C'est le groupe Soilwork. Alors qui sont les deux membres de Soilwork à l'origine de ce nouveau projet? Eh bien c'est le talentueux chanteur Björn Strid et le guitariste David Anderson. Ça s'est passé alors qu'ils étaient en pleine tournée américaine, donc avec Soilwork. Et là, nos deux musiciens se sont découverts une passion commune pour le classic rock des années 70 et des années 80 en particulier. Ils ont donc décidé de se lancer ensemble dans un nouveau projet musical. C'est devenu The Night Flight Orchestra. Et dans ce projet, on découvre un Björn Strid dans un registre bien différent de celui pour lequel on le connaissait jusqu'à présent. Alors assez vite, le duo va être rejoint par Charlie D'Angelo, qui est lui aussi un membre actif de la communauté Death Melodic, puisqu'il est entre autres le bassiste d'Arch Enemy. Il y a eu aussi l'arrivée du clavier Richard Larson, qui a une place capitale au sein de The Night Flight Orchestra. Il y a eu ensuite le batteur Jonas Karlsbach, et puis un line-up qui a été un peu plus tard complété par Sébastien Forslund au percu et à la guitare, et par les Airline Anas. C'est un duo de choristes féminins. Alors pourquoi ils les appellent les Airline Anas? C'est parce que toutes les deux, elles portent pour prénom Anna. Voilà, tout simplement. Comme je l'expliquais il y a quelques instants, la musique de The Night Flight Orchestra, c'est un mélange de classic rock, de hard rock et de rock progressif, influencé directement par la fin des années 70 et le début des années 80. Donc une musique dans laquelle les claviers vintage sont très très présents, le tout toujours sur fond un peu de science-fiction rétro, la science-fiction comme on la concevait à l'époque, dans les années 70-80, ce qui donne parfois au groupe un petit côté kitsch, mais qui est parfaitement assumé, voire même revendiqué. En 2012, le groupe sortait un premier album, c'était Internal Affair. Il y a eu ensuite Skyline Whisper en 2015. Alors ces deux disques ont eu une très bonne critique, mais qui vont connaître un succès quand même très confidentiel. Mais les choses vont changer avec la sortie en 2017 de l'excellent Amber Galactic, qui, grâce à sa qualité, mais aussi à sa parution sur un gros label qui est Nuclear Blast, va largement susciter l'intérêt des médias et donc du public qui va suivre. Et les deux vont vite succomber au charme surannée de cet hommage aussi réussi que vibrant à une période qui s'étale précisément, selon les dires du groupe, de 77 à 83. Une période qu'on a un petit peu tendance à oublier, voire à mépriser, mais qui musicalement fut extrêmement riche pour la scène rock et hard rock. Alors, ce voyage dans le temps, le groupe nous propose tout simplement de le poursuivre à travers Sometimes the World Ain't Enough, qui nous plonge cette fois définitivement dans les sacro-saintes années 80 où le synthé était roi. C'est un véritable hommage au hard FM de cette époque-là, du début au milieu des années 80. C'est aussi un hommage au maître de la mélodie pop qui était ABBA. ABBA est très présent en ce moment dans les influences des groupes qui font du hard rock, du métal. En Suède, apparemment, c'est même un compliment, même quand on est un groupe de métal, de dire c'est un bel hommage à ABBA. C'est comme ça. Pour résumer, ce nouvel opus de The Night Flight Orchestra, il possède tous les ingrédients nécessaires pour faire succomber les plus grincheux et les plus hermétiques au rythme groovy, qui sont parfois même à la limite du disco. C'est un album qui est truffé de refrains qu'on a envie de reprendre à tue-tête. C'est savoureux, c'est enthousiasmant, c'est rempli d'une nostalgie positive, vous savez, cette nostalgie qui fait du bien, un peu comme de regarder la série Stranger Things pour ceux qui connaissent. Voici tout de suite The Night Flight Orchestra avec un morceau qui s'appelle This Time, et c'est sur Back FM. The Night Flight Orchestra sur Bike FM dans l'émission Check Me Load. Le morceau que vous venez d'écouter, c'est This Time, extrait de l'excellent album Sometimes the World Ain't Enough. Ça sort aujourd'hui et je vous le conseille vivement. Là, on était sur un morceau qui faisait très Deep Purple, Whitesnake. C'est vraiment très très bon. C'est Björn Strid qui en est le chanteur. Donc, vous voyez, on peut être à la fois dans un pur groupe de death metal et puis aussi faire du classic rock à merveille. La preuve en est avec The Night Flight Orchestra, dont je vous conseille également l'album précédent, Amber Galactic, qui était paru il y a un an et qui était sublime. Voilà, si vous n'êtes pas allergique aux années 80, vous devriez trouver largement votre compte dans cet album. Alors là, je vais être un petit peu moins enthousiaste avec le prochain dans cette émission Check Me Load pour notre deuxième sortie du jour. On va aller en Angleterre, on va passer de la Suède à l'Angleterre avec le groupe Bullet for My Valentine, qui sort également aujourd'hui un nouvel album qui s'appelle Gravity. Donc Bullet for My Valentine, c'est un groupe qui nous vient de Bridgend au Pays de Galles, qui existe depuis 98, alors qui a été créé notamment autour du chanteur-guitariste Matt Tuck et du guitariste Michael Paget. C'est du heavy metal moderne, un heavy metal où on retrouve beaucoup d'influences metalcore, hardcore, thrash metal. Les membres du groupe revendiquent des influences très très larges, ça va de Iron Maiden, une influence surtout présente dans les premiers albums, jusqu'à Metallica, Pantera, Machine Head, Guns N' Roses, AC/DC, Korn, Slayer, Judas Priest, Megadeth, Alice in Chains ou encore Nirvana. Donc c'est pour montrer que voilà, le groupe ratisse large. Leur carrière explose dès la sortie de leur premier album, c'était Poison en 2005. C'est un album qui va connaître un succès phénoménal jusqu'aux États-Unis où il va quand même être certifié disque d'or. L'album suivant, c'est Scream Aim Fire en 2008. Ce sera l'album de la consécration hein, pour Bullet for My Valentine, qui va connaître alors une popularité particulièrement importante chez les jeunes fans de métal. Il y aura 4 autres albums qui vont ensuite compléter la discographie du groupe. Il y aura Fever en 2010, Temper Temper en 2013 et puis Venom en 2015, qui ont tous les trois donc connu un large succès commercial, sans oublier donc Gravity qui paraît aujourd'hui. D'ailleurs, on en avait écouté un premier extrait hein, de ce nouvel opus il y a quelques semaines, c'était le titre Letting You Go. Alors maintenant, pour vous dire la vérité, j'ai pas grand chose à dire sur l'album, qui est loin d'être le disque du siècle, hein, faut bien l'avouer. J'ai trouvé que le groupe y prenait quand même très peu de risques. Les compos manquent quand même parfois un petit peu de moelle et puis de rage aussi. Et je trouve que l'ensemble, il est un petit peu aseptisé. Alors ça, le côté aseptisé, je l'ai toujours plus ou moins ressenti sur les albums du groupe. Mais voilà, il y avait d'autres choses qui rattrapaient. Là, c'est assez moyen. Hein. C'est pas un album qui est foncièrement mauvais. Gravity, c'est un album passable, on va dire, qui, à mon avis, laissera pas un souvenir impérissable. On va quand même en écouter un extrait pour que vous vous fassiez une idée, et puis peut-être que vous êtes fan et que à vous il vous plaira, hein, c'est pas interdit. On va écouter le titre Piece of Me, donc extrait de Gravity qui paraît aujourd'hui. On écoute Bullet for My Valentine.
Give me a reason why.
C'était Bullet for My Valentine à l'instant sur Back FM dans l'émission Check Me Load avec le titre Piece of Me, extrait de l'album Gravity qui paraît aujourd'hui, un album moyennement réussi qui m'a pas tellement convaincu pour vous dire la vérité. Mais ma foi, si vous êtes amateur du son de Bullet for My Valentine, pourquoi ne pas vous laisser tenter? On en a terminé pour les sorties du jour. On va maintenant s'intéresser à deux sorties qui vont arriver vendredi prochain, le 6 juillet. Alors, on va commencer par du glam metal. Et oui, avec le groupe Kissing Dynamite qui va sortir un nouvel album intitulé Ecstasy. Alors, Kissing Dynamite, c'est un groupe qui nous vient de Reutlinger, c'est près de Stuttgart, donc en Allemagne, hein, si vous avez quelques notions de géographie. C'est un groupe qui a vu le jour fin 2006, début 2007, qui a été créé par 5 jeunes musiciens qui étaient alors âgés de 16 à 21 ans. Donc le chanteur Hans Braun, son frère aîné Andreas, ainsi que Jim Muller aux guitares, Stephen Hale à la basse et Andreas Schnitzer à la batterie. C'est toujours le même line-up aujourd'hui. Ce qui est très rare dans un groupe, hein, de pas avoir au moins un ou deux petits changements. Donc comme je disais, hein, le style c'est du glam metal. Le glam metal, c'est tout simplement une branche du heavy metal qui était très à la mode dans les années 80. On y revient, hein, à cette époque. Qui est ensuite devenu, pour ainsi dire, ringard, même totalement moqué dans les années 90. Et qui connaît un véritable revival et un regain de popularité incroyable depuis quelques années. Depuis le retour des années 2000, enfin, à partir de 2005, on va situer par là. Et donc, Kissing Dynamite fait partie de cette toute jeune garde biberonnée au son de Motley Crue ou autre Twisted Sister, Bon Jovi, etc. Voilà, tous ces groupes de l'époque. Alors, c'est d'abord sur scène, hein, que nos jeunes musiciens vont commencer à forger leur réputation. Ils ont joué quand même dans des beaux festivals, puisqu'on les a vus sur le Summer Breeze, sur le Rock of Age, avant de sortir en 2008 un premier album intitulé Still of Swabia. Depuis, Kissing Dynamite a enchaîné avec Addicted to Metal en 2010, sur lequel ils avaient quand même un invité sacrément prestigieux, puisque il y avait un featuring avec Udo Dirkschneider. Il y a eu Money, Sex and Power en 2012, qui avait valu au combo d'être qualifié par le magazine Rock Hard de tout jeune loup aux dents longues et à l'ambition dévorante. Et puis ensuite, il y a eu les sorties de Megalomania en 2014 et Generation Goodbye en 2016, qui avait reçu un très très bon accueil et qui a d'ailleurs plutôt bien marché, notamment en Allemagne où le groupe s'était très bien placé dans les charts. Alors désormais, Kissing Dynamite est en contrat avec l'écurie Metal Blade Records et ils ont choisi pour ce sixième album eh bien, de revenir à l'esprit de leur début tout en regardant malgré tout vers l'avenir. Ecstasy, c'est donc un album qui est à la fois frais, enjoué, puissant, mélodique et qui a quand même un petit plus, c'est que le groupe a acquis de la maturité hein, durant ces dernières années, donc ça nous donne un ensemble très très efficace. C'est aussi bien taillé pour la FM. Alors en France, c'est vrai que sur les radios FM, on a peu de musique rock metal, mais dans d'autres pays, croyez-moi, ça existe. C'est une musique qui est tout à fait bien aussi taillée pour les stades. Je sais pas s'ils en sont encore là, les Kissing Dynamite, mais en tout cas, ils pourraient tout à fait jouer ce son-là dans ces grandes structures que sont les stades. Et puis, ça a ce petit goût des années 80 qui est très en vogue ces derniers temps. Que voulez-vous que je vous dise? En somme, Kissing Dynamite signe, je pense, l'album parfait pour cet été. En voici un extrait avec l'imparable You've Got the Fire. Non, I've Got the Fire. C'est tout de suite, c'est sur Back FM.
I got the fire, and you may be my dynamite. job until you leave it all behind. We're gonna fend the atmosphere, the entire humankind. Seasons rising from the grave, returning with a bang. We're gonna tear this apart.
Dynamite à l'instant avec un extrait de Ecstasy, ça va paraître la semaine prochaine le 6 juillet. On vient d'écouter I've Got The Fire, vous êtes bien sûr sur Back FM et c'est votre émission Metal Check Me Load actuellement qui vous propose donc les dernières nouveautés métal. Là on était sur un son très années 80, très très entraînant, très très frais. On va s'agacer un peu, on va aller vers des contrées froides et sombres et on va s'intéresser également à une sortie de la semaine prochaine du 6 juillet avec le grand retour du groupe Immortal qui n'a plus rien sorti depuis 9 ans, hein, et bien oui. Et donc leur nouvel album s'intitulera Northern Chaos God. Alors Immortal, c'est un groupe qui nous vient de Bergen en Norvège, qui a été fondé en 90 par le chanteur-guitariste Abbath et par le guitariste Demonaz. Abbath, il est parti et maintenant eh bien, il officie sous son nom, sous le nom Abbath. Et Demonaz, lui, est resté au sein d'Immortal. Donc pour le style, on est sur du black metal traditionnel, j'ai envie de dire, puisque Immortal fait partie des groupes qui ont contribué à la naissance de ce qu'on a appelé la scène black metal norvégienne, qui est considérée comme étant la deuxième vague de ce mouvement black metal. Le premier, c'était au cours des années 80. Alors depuis le départ d'Abbath en 2015, qui s'était quand même permis d'annoncer la dissolution du groupe, hein, sans le consentement de son collègue, Immortal se compose donc désormais de Demonaz, qui en plus de la guitare a donc hérité du micro, et du batteur Org, qui est derrière les fûts depuis 1996 quand même. À ce jour, Immortal a sorti 8 albums, parmi lesquels quelques classiques du genre, hein, que tout amateur de black metal se doit de posséder dans sa discothèque, ou dans sa playlist pour les plus modernes, comme par exemple Pure Holocaust, paru en 93, Battles in the North en 95, Blizzard's Beast en 97, At the Heart of Winter en 99 ou plus récemment All Shall Fall en 2009, ben, qui est jusqu'à présent leur dernier album en date puisque le prochain il va arriver la semaine prochaine. Inutile donc de préciser que l'arrivée de Northern Chaos God 9 ans plus tard est très très attendue de la part des fans qui vont donc découvrir des menaces au poste de frontman, un retour qui s'annonce d'ores et déjà impressionnant pour Immortal, qui s'offre en quelque sorte un retour aux sources du mal en proposant à travers ce 9e opus eh bien, le mariage parfait entre Pure Holocaust et At the Heart of Winter. Pour vous résumer, Northern Chaos God, on peut dire que c'est une véritable tempête de glace qui s'abat sur les fondations même du tout-puissant black metal à travers 8 titres de fureur dévastatrice, de rage et de froid inquiétant, avec une voix âcre et grinçante qui, après quelques secondes d'écoute seulement, vont laisser l'auditeur complètement à genoux, convaincu de la grandeur du combo. Alors vous ajoutez à tout ça une production qui est signée de Peter Tagdren, hein, qu'on ne présente plus, qui offre à Immortal une expression digne de ce nom, qui, en fait, on a une production qui est à la fois plus glaciale et plus sombre que jamais. À noter enfin que si la violence fait toujours partie intégrante de l'univers du groupe, hein, Immortal réussit quand même à s'éloigner un petit peu de la lettre stricte du black metal en incorporant quelques riffs bien heavy qui ont tout loisir de développer au long du disque leur souffle épique. Maintenant, j'ai envie de me poser une question. Est-ce que le départ d'Abbas aurait-il pas donné un nouveau souffle au combo ? On peut quand même se la poser, cette question. Je vous propose d'ailleurs de méditer sur le sujet en musique, puisqu'on va écouter Immortal avec, bien sûr, un extrait de No Sound Chaos God. Et ça tombe bien, puisque le titre s'appelle également comme ça. Voici tout de suite Immortal. Amis de la douceur et de la délicatesse, bienvenue sur Bac FM, c'était Immortal à l'instant, avec No Sound Chaos Gods. C'est le nom du titre que vous venez d'écouter, c'est aussi le nom de l'album qui va paraître la semaine prochaine, le 6 juillet. Je vous avais parlé de... de son glacial, de son tout à fait sombre et ténébreux, eh bien vous avez été servi. Voilà, vous avez pris votre mandal avec ce nouvel album d'Immortal, le premier en 9 ans, avec désormais Monsieur Demonaz au chant et à la guitare. Voilà pour ce nouvel opus de nos amis norvégiens. Alors, il arrive parfois que le hasard fasse bien mal les choses et fasse parfois même preuve de cruauté. Vendredi dernier, 22e jour de ce mois de juin 2018, sortait l'album Live à Dynamo Open Air 1998, signé du groupe Pantera. Ce même jour, eh bien, le groupe perdait un de ses pères fondateurs avec la disparition à l'âge de 54 ans de Vinnie Paul. Né à Dallas dans une famille de musiciens, Vinnie Paul Abbott apprend très jeune la batterie et il fonde en 1981 avec son frère Dimebag Darrell Abbott, qui est guitariste, un groupe qui s'appelle Pantera. Alors à cette époque, Pantera c'est un groupe de glam metal. Ah ouais, si vous avez pris que la deuxième partie de la carrière du groupe, vous pourriez être surpris. Mais c'était bien, bel et bien le cas, hein. Vous pouvez d'ailleurs aller écouter les anciens albums et puis regarder aussi les photos du groupe. Donc Pantera va sortir 4 premiers albums qui vont rencontrer un succès assez confidentiel. Et alors qu'ils viennent de recruter un nouveau chanteur, un dénommé Phil Anselmo, eh bien ils vont aussi décider d'abandonner le glam metal pour une musique heavy, trash, groovy, beaucoup plus percutante. Le résultat de ce virage musical, ça s'appelle Cowboys from Hell, ça sort en 1990 et c'est le premier gros succès de Pantera. La suite, peut-être que vous la connaissez, hein, c'est le mythique Vulgar Display of Power qui paraît en 92, c'est aussi Far Beyond Driven qui paraît en 94, The Great Southern Tranquil en 96 ou encore Reinventing the Steel en 2000, qui sont tous des albums d'anthologie hein, pour ce groupe devenu légendaire qui est Pantera. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, et bien Pantera aussi hein, puisqu'ils vont annoncer officiellement la séparation du groupe en 2003. Alors à ce moment-là, les frères Abbott forment Damage Plane. Ils vont sortir en 2004 un seul et unique album qui s'appelle Newfound Power, parce qu'il faut savoir que l'histoire de Damage Plane, elle va être aussi courte que tragique. Le 8 décembre 2004, alors que le groupe se produit dans un club de Columbus dans l'Ohio, eh bien Dimebag Darrell est assassiné en plein concert par un forcené qui va tuer également 3 autres personnes, qui va en blesser 7 aussi avant d'être lui-même abattu. Alors après le décès de son frère Dimebag, Vinnie Paul va rester plusieurs mois sans jouer. Il va finalement sortir du silence en 2006, année où il va rejoindre le groupe L.E.A. avec qui il a enregistré 5 albums. Le dernier en date, c'est Undentable, qui est paru en juin 2016. Et il y a un 6e album qui serait a priori actuellement en préparation. Et voilà, alors que le Hellfest battait son plein, et bien la France apprenait samedi matin la disparition de Vinnie Paul, qui aurait, selon ce qui a été dit, hein, succombé à une crise cardiaque durant son sommeil. C'est donc un très grand nom de la batterie qui s'est éteint. On va lui rendre hommage, si vous le voulez bien, avec justement un extrait du Live à Dynamo Open Air 98, donc qui est paru ce funeste 22 juin. Alors j'ai choisi le titre Suicide Note Part 2, qui était paru 2 ans avant la prestation du groupe au Dynamo. C'était sur l'album The Great Southern Tranquil. On écoute tout de suite en hommage à Vinnie Paul Pantera avec Suicide Note Part 2, et c'est en live.
Next song is called Suicide Note Part 2. Thank you very much. much.
C'était Pantera en live à l'instant avec le titre Suicide Note Part 2, un extrait du live à Dynamo Open Air 1998 qui est donc sorti il y a pile une semaine, le 22 juin, jour de la disparition de son batteur, de la disparition de Vinnie Paul. Et vous êtes toujours sur Bac FM 106.1 dans l'émission Check Me Load, le monde de la batterie qui est doublement en deuil ces derniers temps puisque quelques jours plus tard on apprenait la disparition également d'un autre grand nom de la batterie, le batteur Stéphane Guégan, alors qui est connu notamment pour avoir officié au sein d'Agressor. Et là encore, ironie du sort, il y a peu de temps, le 8 juin, le label Season of Mist avait réédité un des fameux albums du groupe, l'album Rebirth qui était sorti en 1995. Alors Agressor, c'est un groupe qu'il faut connaître absolument aussi, hein, puisque c'est un groupe qui fait partie de notre patrimoine français, du moins en matière de métal. C'est un groupe qui est originaire d'Antibes, qui s'est formé en 86, qui a été créé sous l'impulsion notamment du chanteur-guitariste Alexandre Colin-Token, qui est le seul membre d'origine à être encore présent d'ailleurs. Et Agressor, en fait, c'est un mélange de death et thrash metal. Avec Loadblast, ils font d'ailleurs partie des précurseurs de la scène death thrash française, tout simplement. Et tout comme Loadblast, Agressor a rayonné bien au-delà de nos frontières hexagonales. L'année de sa formation, le groupe va enregistrer sa première démo, c'est The Merciless Onslaught, qui va recevoir un très bon accueil au sein de la scène metal underground. Un an plus tard, ils vont sortir une deuxième démo, c'est Satan Sodomy, dont la pochette va faire plutôt scandale. Alors si vous voulez savoir pourquoi, je vous laisse le soin d'aller fouiller un petit peu plus sur le net. Et puis à ce moment-là, Agressor va commencer à faire des concerts un peu partout en France, mais aussi en Suisse, aux côtés de quelques grands noms comme Messia, Samael ou encore Sodom. Il va y avoir ensuite un split qui s'appelle Licensed to Trash, qui vont partager d'ailleurs avec Loadblast. Et ensemble, ils vont réaliser quasiment le premier disque de thrash metal français en 1988. C'est un groupe qui a beaucoup innové, Agressor, puisque c'est aussi le premier groupe français à avoir jamais signé sur un label international, suite à l'enregistrement de la démo Orbital Distortion en 89. C'est donc sous un grand label que va sortir Neverending Destiny, un album qui va être enregistré sous la houlette du producteur de Bathory. Alors cet album, il va s'imposer à l'époque comme relativement novateur au vu du contenu de certains textes, qui sont très orientés science-fiction quand la mode est à l'occulte et au gore, mais surtout par son artwork signé d'un célèbre dessinateur des années 70, Philippe Druyer, pour ceux qui connaissent. L'album va recevoir un très bon accueil à l'international de par son mélange assez original pour l'époque de thrash brutal et de death technique. Et deux ans après, en 98, il va y avoir la sortie d'un nouveau disque qui va marquer son temps, c'est Towards Beyond. Ça va faire l'effet d'un énorme pavé dans la mare. Il est enregistré en Suède avec The Boss en personne, le producteur attitré de Bathory. Le disque mélange musique médiévale et death assez technique, riff thrash et passage ultra lourd avec un son caverneux. L'album s'impose d'emblée comme une des meilleures surprises death de l'année 92. L'album suivant, c'est Symposium of Rebirth, qui paraît en 94. Alors Agressor va y rester fidèle à ses racines, mais va explorer de nouveaux terrains avec les chœurs de l'Opéra de Lyon qui vont être engagés pour l'enregistrement, et aussi avec la participation de Barney Greenway, le chanteur de Napalm Death, sur une reprise de Terrorizer. L'album alterne morceaux acoustiques médiévaux avec de la pure brutalité death, des chœurs d'opéra sur des blast beats, des reprises de la musique du film Conan le Barbare, et puis une technicité hallucinante, encore une fois, pour l'époque. Agressor va signer un nouveau chef-d'œuvre, mais ça va être un petit peu la fin de cette période dorée, puisqu'il y a seulement deux albums qui vont sortir ensuite. Il y aura Medieval Rites en 2000, et puis le dernier, c'était Death Rite en 2006. Et donc, alors que Season of Mist avait réédité le 8 juin Symposium of Rebirth, sous le titre de Rebirth, tout simplement, on apprenait lundi le décès la veille du batteur Stéphane Guégan, des suites d'un cancer du poumon. Stéphane avait officié au sein d'Agressor entre 91 et 94. Il avait donc enregistré les albums Towards Beyond et Symposium of Rebirth, justement. Et Stéphane Guégan était considéré comme un des pionniers de la batterie extrême. Il était également un arrangeur hors pair. Donc, lui aussi, rendons-lui hommage. On va écouter un extrait de cette réédition de Rebirth avec un morceau purement death, hein. C'est le morceau Overloaded et c'est sur Bac FM.
Choice,
Agressor sur Bac FM 106.1 dans l'émission Check Me Load. Vous venez d'écouter le titre Overloaded, extrait de l'album Symposium of Rebirth, donc paru en 94. Ici, c'est sa réédition, tout simplement intitulée Rebirth, que vous venez d'écouter. Une réédition qui est parue le 8 juin sous le label Season of Mist, et une réédition qui propose tout un tas de labels. Et puisqu'on parle de réédition, ça n'a rien à voir avec Agressor, mais impossible de ne pas l'évoquer, c'est aujourd'hui que sort la réédition d'Appetite for Destruction, le fameux album des Guns N' Roses paru en 1987. Alors j'en avais un peu parlé déjà il y a quelques semaines, hein. Vous savez que ça a été annoncé officiellement le 4 mai, cette sortie, et les Guns ont choisi de fêter dignement les 31 ans de leur premier album en offrant aux fans une version remasterisée d'Appetite for Destruction, mais aussi en peaufinant une série de titres rares, d'inédits, de live. Alors, il y a plusieurs rééditions qui sont sorties, plusieurs formats. Il y en a une particulièrement massive qui est un box set ultra complet qui s'intitule Locked and Load. Alors là, il y a, je sais plus combien de CD, mais c'est impressionnant, mais il y a un nombre aussi incalculable de goodies à l'intérieur. Mais attention, si vous voulez cette fameuse boîte en édition très très limitée, il vous en coûtera presque 2000 euros. Et oui, ça fait cher. Alors, si vous n'êtes pas assez riche pour vous permettre cet achat quand même assez important, hein, dans une vie, surtout à l'époque actuelle, vous pouvez aussi trouver une réédition d'Appetite for Destruction super deluxe. Alors, il n'y a que quelques goodies, mais faut quand même avoir un petit peu d'argent de côté, parce qu'elle coûte quand même 145 euros. Hein, c'est quand même pas une mince affaire. Mais rassurez-vous, si vous avez un budget beaucoup plus modeste, il y a aussi des éditions double vinyle, double CD, des éditions en format numérique qui sont cette fois-ci à des prix tout à fait raisonnables et accessibles. Alors je sais pas combien coûtent les versions vinyle CD, je sais plus. Je sais juste que sur les plateformes de téléchargement légal, le prix c'est de 29,99€ pour l'ensemble, et il y a beaucoup de titres, donc franchement c'est correct. Voilà, je voulais juste le signaler, et si vous êtes sage, peut-être qu'après après le dernier morceau, j'enchaînerai avant de reprendre sur la programmation de Bac FM, sur sa programmation normale. On repassera peut-être l'extrait inédit des Guns que je vous avais proposé il y a quelques semaines. Mais ça, ce sera si vous êtes sage, et ce sera après le morceau qui vient, qui est notre rubrique Sortez Cover. Et aujourd'hui, on va aller chercher du côté de chez Devil Driver, qui a décidé de se lancer dans la reprise country. Alors, l'album va s'appeler Outlaw Still the End, volume 1, donc j'imagine qu'il y aura un volume 2. Il va sortir le 6 juillet, donc la semaine prochaine. Mais avant de vous expliquer un petit peu plus en détail ce que va nous proposer Devil Driver, je vais quand même vous faire une petite présentation du groupe. Un groupe qui nous vient de Santa Barbara, en Californie, qui a été créé en 2003 par le chanteur Des Fafara, dont le précédent groupe, Cold Chamber, venait à l'époque de splitter. Et tiens d'ailleurs, pour ceux qui sont curieux et qui ont envie de savoir d'où vient le nom de Devil Driver, en fait c'est une cloche qui était utilisée par les sorcières pour chasser les démons. Voilà, comme ça vous savez tout. En ce qui concerne son style musical, on est sur du groove metal aux influences death mélodiques. Le groupe sort un premier album éponyme en 2003, quelques mois après sa formation, et même s'il est plutôt convaincant, le disque va pas remporter un énorme succès, malgré la notoriété de son chanteur, comme quoi ça veut rien dire. Faudra en effet attendre plusieurs disques pour voir les Californiens s'imposer sur la scène internationale, puisque c'est à partir de Pray for Villains, qui sort en 2009, qui est produit par Logan Mather, que les choses vont évoluer, et c'est finalement avec Beast, qui sort en 2011, que la carrière de Devil Driver va exploser à échelle internationale. Alors d'ailleurs, ces deux successeurs que sont Winter Kills, paru en 2013, et Trust No One en 2016, vont connaître un accueil plutôt enthousiaste, hein, il faut bien le rappeler. Et si le cas de Devil Driver nous intéresse aujourd'hui, et bah c'est pas pour parler de nouvelles compos, mais bel et bien, comme je vous disais, de reprises country que le groupe a réuni au sein de cet album intitulé Outlaws Till the End Volume 1, qui paraîtra donc dans une semaine, et dont on entend parler quand même depuis plus d'un an déjà. Alors, faut bien avouer qu'en France, nos connaissances en matière de musique country, elles se résument souvent à quelques grands noms comme Johnny Cash par exemple, mais aux États-Unis, la musique country, c'est une véritable institution. Elle est probablement autant ancrée dans la culture américaine que la variété est peut-être malheureusement ancrée dans notre culture française. Donc, dans Outlaws, Till the End, volume 1, Devil Driver a choisi de réinterpréter dans des versions metal groovy en diable 12 classiques de la country, qui sont issus du répertoire de Hank Williams Jr., de Hank Williams III, qui est son fils, de Willie Nelson, des Eagles, ou encore de l'incontournable Johnny Cash. Des reprises que le groupe a choisi de partager avec de nombreux invités, parmi lesquels Wednesday Sorteen, Randy Blitt et Mark Morton de Lamb of God, Burton Seabell de Fear Factory, Brock Lindo de 36 Crazy Feast, ou encore Hank Williams III, donc, dont ils reprennent des morceaux. Et puis John Carter Cash, le fils de Johnny Cash et de June Carter. Alors, si comme moi vous êtes très peu calé en matière de country, aucun souci, hein, sachez que ça vous empêchera en rien de profiter de cet album, que je trouve vraiment très réussi. Et d'ailleurs, nul doute que certaines mélodies vous seront pas inconnues, hein, comme c'est le cas par exemple de Ghost Riders in the Sky, qu'on va écouter dans quelques instants, qui a été popularisé par Johnny Cash, mais qui est sorti bien avant que celui-ci ne la réinterprète, puisque c'est un morceau qui date de 48. C'est Ghost Rider in the Sky, c'est un morceau qui a été composé et enregistré pour la première fois par Stan Jones. Et si la mélodie nous est si familière, vous allez l'entendre, hein, c'est parce qu'elle s'inspire directement d'une chanson traditionnelle très populaire qui s'intitule When Johnny Comes Marching Home, que Berrurier Noir avait d'ailleurs repris dans les années 80 sous le titre de Johnny revient de la guerre, si ça vous dit quelque chose. Quant à la version qu'en propose Devil Driver, moi je la trouve imparable, redoutable. Donc, eh bien, on va se quitter avec Ghost Rider in the Sky, une chanson de Stan Jones, revue et corrigée par Devil Driver. Le temps pour moi de vous souhaiter un très bon week-end sur Bike FM, de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures métal. On ira explorer ce qui va se passer tout au long de ce mois de juillet. Salut à tous, à très bientôt. Voici tout de suite Devil Driver.
Listen up, you guys.